Isaac Babel, Cavalerie rouge. Vie et aventure de Pavlitchenko Rodionitch. Compatriotes, camarades, frères très chers, écoutez donc au nom de l'humanité le récit authentique de la vie du général rouge Matvei Pavlitchenko. Il était berger, ce général, berger au domaine de Lidino, chez le seigneur Nikitinsky, et il gardait les cochons du seigneur, jusqu'à ce que la vie lui envoyât, comme qui dirait, des galons brodés aux épaules, et qu'après, avec ces galons dont je vous parle, il eut à s'occuper des bêtes à cornes. Et qui peut savoir s'il était seulement né en Australie, notre Matvei, lumière de Rodion, son père, s'il n'aurait pas pris du galon jusqu'aux éléphants? Il aurait alors gardé les éléphants, notre cher Matvei. Sauf que je ne vois pas bien, à mon grand regret, où il aurait pu trouver des éléphants dans notre bonne vieille province de Stavropol. Plus gros que le buffle, je vous le dirai franchement, on ne trouve pas ça chez nous, dans nos vastes contrées. Et pour ce qui est du buffle, un pauvre paysan n'en tire pas de grande satisfaction, lassé qu'il est de devoir tout le temps l'aiguillonner. Ce qu'il nous faut, à nous autres orphelins, c'est un cheval, un bon cheval de trait qu'on nous donne en partage jusqu'au jugement dernier, jusqu'à ce que l'âme lui sorte par les flancs au bout du champ. Et voilà que je fais paître comme ça mon troupeau à cornes. Je suis entouré de vaches de tous côtés. Je suis plein à en vomir de l'odeur du lait. Je pue, pour dire vrai, comme un pis tranché. Les jeunes taureaux autour de moi vont et viennent. Des taureaux musclés, il faut voir comment, et de robe grise. Tout autour de moi, couché dans les champs, un immense espace de liberté. L'herbe grésille dans le monde entier, et les cieux au-dessus de moi se déplient comme un accordéon. Et il faut vous dire, les gars, que dans notre province de Stavropol, les cieux sont souvent tout ce qu'il y a de bleu. Et je garde mes bêtes de cette manière. Et n'ayant rien d'autre à faire, je cause et je joue de mon pipeau avec les vents, jusqu'à ce qu'un vieux sage vienne me dire « Matvei, va-t'en voir, » qu'il dit, « va-t'en voir, Nastia. » « Pourquoi ?» que je dis. « Ou bien est-ce que vous, vieil homme, vous seriez en train de vous moquer de moi ?» « Vas-y !» qu'il dit. « Elle le désire. » « Alors j'y vais. » Nastia, que je dis, et mon sang noircit. « Nastia, que je dis, est-ce que vous vous moquez de moi ?» Mais elle ne m'entend pas. Elle part en courant comme une folle, et nous courons ensemble jusqu'au pâturage, éreintés tous les deux, rouges et le souffle coupé. « Matvei, » me dit Nastia, « il y a de cela trois dimanches, quand c'était la remonte du printemps et que les poissons viennent frayer, tous les pêcheurs vont sur les rives, et je vous ai vu, vous marchiez avec eux, tête baissée. Pourquoi c'est-il que vous baissiez la tête, Matvei ? Quelque chose vous pesait donc sur le cœur? Répondez-moi. » Et je lui répondis. « Nastia, je n'ai rien à vous répondre. Ma tête n'est pas un fusil. Elle n'a point de cran de mire ni de guidon de visée. Et pour mon cœur, Nastia, vous le savez bien, il est vide de tout. Sauf peut-être du lait qui suinte par toutes mes pores, car c'est effrayant comme je pue le lait. » Là, je le vois. Mes paroles commencent à faire de l'effet. Ha ha! Je peux le jurer sur la croix! Qu'elle dit en riant à gorge déployée comme un tambour qui résonne dans la steppe. Je peux le jurer sur la croix que vous faites de l'œil aux demoiselles! On s'est dit, comme ça, des bêtises pendant un temps, pas longtemps. Puis on s'est mariés. Et on s'est mis à vivre, Nastia et moi, comme on savait le faire, et pour sûr, on savait. On avait chaud toutes les nuits, on avait chaud en hiver. Toutes les nuits, tout nus, on se frottait, on se griffait même, on vivait comme des diables. Et ça, jusqu'au moment où le vieux sage est revenu.
« Matveille, » qu'il dit. « Le Seigneur, il n'y a pas longtemps, il a touché ta femme à tous les endroits. » Et ils veulent la voir.
Mais moi, je réplique. Non, non, excusez-moi, tout sage que vous êtes, mais je sens que je vais vous coudre la bouche. Et le vieux, sans demander son reste, est parti à grandes enjambées. Et moi, ce jour-là, j'ai parcouru à pied 20 verstes de terre, de la terre que je mesurais à chaque enjambée. Et le soir, je me suis présenté au domaine de Lidino, chez Monseigneur Nikitinsky, un joyeux drille. Il était assis dans une chambre, le vieux bonhomme, occupé à briquer des selles. Il y en avait 3, une anglaise, une de dragon et une de cosaque. Et moi, je restais planté devant sa porte comme un pied de bardane pendant plus d'une heure, et il ne se passait rien. Après quoi, il jeta les yeux sur moi.
« Qu'est-ce que tu veux ? » qu'il dit.
« Je veux mon compte. »«
Tu as quelque chose contre moi ? » ?»«
Je n'ai rien contre vous, mais je veux mon compte. »
Alors il a détourné le regard et pris un chemin de traverse en étalant sur le plancher des chabraques de couleur pourpre, encore plus pourpre que les drapeaux du tsar. Et il est monté sur ses grands chevaux, le vieux.
« Libre à toi !» qu'il me dit,
faisant le coq. « Vos petites mamans et bons chrétiens, je les ai toujours lutinés. Ton compte, tu peux le recevoir. Mais dis-moi, l'ami Matyusha, ne me devrais-tu pas, toi aussi, un petit quelque chose ?»
Que je réponds, vous êtes un sacré farceur. Que Dieu me foudroie à l'instant si vous n'êtes pas un sacré farceur. Vous me devez mes gages.
Tes gages ? Qu'il crie le maître, et il me fait tomber à genoux, tape du pied et m'enfonce dans les oreilles, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Tes gages ? Qu'il crie, et le joug, tu l'as oublié ? Le joug à bœuf que tu m'as cassé l'an dernier ? Où qu'il est, mon joug ?
Ton joug, que je réponds à mon seigneur et maître, je te le rendrai.
Et je lève vers lui mes yeux simples. Et je suis devant lui sur mes genoux plus bas que terre. Je te le rendrai, le joug. « Mais toi, ne me presse pas avec mes dettes, vieil homme. Sois un peu patient avec moi. »
Eh bien, pour tout vous dire, gars de Stavropol, compatriotes, camarades, bien chers frères, savez-vous que mon seigneur a fait courir mes dettes sur 5 ans, 5 années perdues à la peine, jusqu'au jour où, touchant le fond, la belle année 18 m'est apparue. Elle vint, la belle, sur ses grands chevaux, ses robustes étalons cabardins, et elle tirait derrière elle tout un train et quantité de chansons, comme tu étais avenante pour moi, année 18. Ferons-nous encore une fois la fête, ma jolie petite année 18, ma jolie petite goutte de sang? On a chanté tes chansons à s'en époumoner, on a bu tout ton vin, on a instauré ta vérité. Mais il ne reste plus maintenant que des gratte-papiers. Ah, ma mignonne, ce n'étaient pas les scribouillards qui, en ces jours-là, parcouraient tout le Kouban et sortaient l'âme du corps à tous ces généraux. Matvey Rodionitch faisait alors campagne dans la région de Prikoumskoïe, laissant derrière lui des sillons abreuvés de sang. Et il ne lui restait plus qu'une dernière étape de 5 verstes pour atteindre le domaine de Lidino. Et j'y allais à cheval, tout seul, à Lidino, sans aucune escorte. Et je gagnais la pièce du haut et entrais doucement. Tous ceux qui possédaient la terre étaient là, assis. Et Nikitinsky leur servait le thé avec des amabilités. Mais dès qu'il m'aperçut, son visage changea du tout au tout. J'ôtai mon bonnet. « Bonjour » lançai-je à la cantonade. « Bien le bonjour, s'il vous plaît. »« Alors, seigneur, on reçoit son hôte ? Ou comment sait-il que ça va se passer ?»
« Le plus calmement du monde, comme entre gens civilisés, »
me répondit un type que je devinais être, à sa façon de parler, un fonctionnaire du cadastre. « Mais toi, camarade Pavlitchenko, à ce qu'on voit, tu arrives de loin, tu as galopé dans la boue, et ton visage en est plein. Ton visage fait peur. Pourquoi es-tu ainsi ?» « Parce que, répondis-je, parce que vous, les riches propriétaires fonciers, êtes pleins de morgue, et qu'il y a une joue qui me brûle. Une joue qui me brûle depuis 5 ans, qui me brûle dans les tranchées, qui me brûle en campagne, qui me brûle avec les femmes, et qui me brûlera encore au jour du jugement dernier. » Au jour du jugement dernier, que je dis en souriant et en fixant du regard Nikitinsky. Et lui, il se décompose. Son regard devient livide. Il n'a plus que des billes à la place des yeux, des billes qui roulent dans leurs orbites grotesques. Il a presque l'air joyeux, mais il est épouvanté.
Matyusha, qu'il me dit, on s'est connus autrefois. Et voilà que mon épouse, Nadiejda Vassilievna, par les temps qui courent, a perdu la raison. Elle était bonne pour toi, pas vrai, tu te rappelles? Et toi, Matyusha, tu la respectais plus que tous. Se peut-il que tu ne désires pas la voir maintenant qu'elle a perdu la lumière de l'esprit?
« Ça se peut, » que je dis, et nous entrons dans une autre pièce. Et là, il se met à me toucher les mains, la droite d'abord, puis la gauche. « Matyusha, » qu'il me dit, « tu tiens mon sort entre tes mains, tu es mon destin. » « Non, » que je dis, « laisse donc ces mots. Il y a longtemps que Dieu nous a abandonnés, nous la valetaille, et le destin nous a plumés comme une dinde. Crois-moi, je te le dis, la vie ne vaut pas un copec. Laisse donc tous ces mots, et écoute plutôt, si tu veux bien, la lettre de Lénine. »
« Une lettre pour moi, Nikitinsky ?»«
Oui, pour toi. » Et je sors le livre des instructions. Je l'ouvre à une page blanche et je lis, bien que je sois illettré jusqu'au tréfond de l'âme.
Au nom du peuple, que je lis, et pour l'établissement d'une vie meilleure, j'ordonne à Pavlitchenko Matvey Rodionitch d'ôter la vie aux personnes qu'il jugera bon.
Voilà, que je dis, la lettre que Lénine t'adresse.
Mais lui me dit, non. Non, Matyusha, qu'il dit, même si la vie se réduit comme une peau de chagrin ces temps-ci, et que le sang dans tout notre Saint-Empire apostolique de Russie ne vaille pas très cher non plus, du sang, Matyusha, tu en auras toujours bien assez, et mes yeux de mortel, tu finiras par les oublier.
Alors, ne vaudrait-il pas mieux que je te montre ce que je cache sous le plancher ?
Montre, que je dis, ça vaudra peut-être mieux.
Et nous voilà repartis, traversant des pièces et descendant au cellier. Et là, il enlève une brique, et derrière la brique, il y a un coffret rempli de bagues et de colliers, de décorations et de reliques incrustées de gemmes. Il me le lance et se plante devant moi.
Tout est pour toi, qu'il me dit. Prends possession du trésor des Nikitinsky et va-t'en. Retourne, Matvey, à ta tanière de Prikoumskoye. Alors là, je l'empoigne par le corps, par la gorge, par les cheveux. Et pour ma joue, qu'est-ce qu'on fait, hein? Hein?
Que je dis. Comment va s'arranger pour ma joue, hein, frère?
Alors il se met à rire très fort, tout seul, sans essayer de se dégager de mon étreinte. « Chacal !» qu'il me dit, sans essayer de se dégager. « Je m'entretiens avec toi comme avec un officier de l'Empire russe. Mais c'est une louve qui t'a allaité, canaille. Alors vas-y, tire-moi dessus, qu'on en finisse, enfant de putain !»
Mais je ne voulais pas tirer sur lui. Je ne voulais pas gaspiller une balle. Et je l'ai traîné jusqu'à la salle du haut. Là, dans cette salle, il y avait notre maîtresse Nadiejda Vassilievna, complètement folle, et qui arpentait la pièce en tous sens, sabre au clair, tout en ne cessant pas de se regarder dans le miroir. Mais dès qu'elle m'a vu arriver, traînant Nikitinsky, Nadiejda Vassilievna, notre maîtresse, a couru jusqu'à un fauteuil, s'est assise, et comme une reine avec sa couronne de velours ornée de plumes, elle m'a salué en levant son sabre. Alors, je me suis mise à piétiner mon maître Nikitinsky. Je l'ai foulé aux pieds pendant une heure, et même plus. On peut dire que pendant tout ce temps, j'ai vécu pleinement. En le tuant d'une balle, je m'en serais juste débarrassé. Mais c'est lui faire grâce que de tuer un homme d'une balle, et c'est d'une facilité répugnante. En tirant, on ne trouve pas l'âme. On ne sait pas au juste où elle se loge dans l'homme et comment elle sort. Alors, des fois, je me donne la peine de savoir. Des fois, je foule aux pieds un homme pendant une heure ou même plus, rien que pour faire sortir l'âme.